T'avais quelque chose à ajouter sur cette chute de Tadej Pogačar, mon cher Eric?
Ben, le combat est enlevant entre l'équipe de Pogačar et l'équipe de Vingegaard et entre ces deux rivaux. Puis quand Pogačar est tombé, Vingegaard avait une opportunité de pouvoir prendre des minutes, parce qu'il est une minute 17 en arrière de Pogačar au général. Il avait une opportunité de prendre des minutes puis de dire « Hey, il est tombé et puis je vais gruger des minutes. » Et lui, il a tout de suite dit au peloton « On arrête, on ralentit et on attend Tadej. » On l'attend. Et ça, c'est le code d'honneur des cyclistes. Mais c'est pas tout le temps appliqué. Il y a des années, je me rappelle une année, Lance Armstrong avait un combat épique avec Jan Ullrich.
Ouais.
En montagne, Ullrich est tombé, il l'a attendu. Mais il y a des fois, il y a des champions qui disent « Moi, j'attends pas, j'en profite pour aller chercher des gruger des secondes. » Mais aujourd'hui, Vingegaard, il a dit à son équipe « On l'attend. » Les leaders ont décidé d'attendre Pogačar. Fait que c'est... Tu sais, ils veulent se battre, mais ils se respectent. On le voit quand ils arrivent à la file aux lignes d'arrivée.
Mais Vingegaard et Pogačar sont deux grands rivaux. Mais deux grands amis également, si je me trompe.
Je dirais pas des amis, mais des gars qui se respectent. C'est pas des amis.
Okay.
C'est deux personnalités complètement différentes. Pogačar, c'est l'agressif qui veut tout le temps attaquer. Vingegaard, c'est le rationnel. C'est le gars qui est plus introverti. Pogačar, il est flamboyant. Pogačar, c'est les publications Instagram, les publications régulièrement. On le voit partout. C'est un bon vivant. Il s'amuse. Il aime ça. Il adore le vélo. Écoute, ce qu'il a essayé de faire l'année passée, ce qu'il a accompli. Le Giro, puis le Tour de France, dans la même année, c'est exceptionnel. Pantani l'a réussi il y a quelques années, mais, ouais. Mais c'est très rare. Et là, il y a des rumeurs qu'il voudrait peut-être faire la Vuelta au mois de septembre. Tu sais, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Vingegaard, ce qu'il a accompli l'année passée après une fracture de la clavicule où il a failli mourir, puis il est revenu trois mois après sur le Tour de France, c'est deux grands champions. Deux énormes champions. Je pourrais pas dire qu'il va gagner cette année, mais je suis content de savoir que là, puis certain que Pogačar aurait attendu Vingegaard.
C'est-tu en 2023? Je pense que c'est quand Vingegaard a gagné.
Il a dit « Je suis mort. » Pogačar en montant...
C'est dans une montée. Hein? C'est dans un col direct. «
I'm dead, guys. I'm dead. »
Les deux étaient nez à nez et Vingegaard l'a cassé direct dans la montée.
Dit,
exactement au... Je crois que c'est exactement au même endroit où l'année précédente, Pogačar avait gagné le Tour de France, ou à peu près.
C'était la deuxième de deux que Vingegaard a gagné. Vingegaard a gagné 2022-23. Pogačar a gagné 2020-2021. Là, l'année passée, Pogačar est revenu. Je vais t'expliquer. Pogačar, ses défis, c'était la chaleur.
Et
la chaleur. Pas les montées, mais la chaleur puis la nutrition,
okay.
L'hydratation. Il a ajusté ça. Okay. Les descentes, c'est un défi aussi à Pogačar. Alors, il a ajusté. C'est pour ça que l'année passée, il a bien fait. Là, tu sais, je veux dire... Je donnerais un léger avantage à Pogačar au niveau du cycliste, le meilleur de, entre les deux, mais...
C'est un sport d'équipe.
Ah, mais il a perdu son lieutenant, Pogačar.
C'est ça.
Il a perdu...
S'il remporte le Tour de France cette année, ça va être tout un exploit.
Ça va être tout un exploit parce qu'il a perdu le gars qui le traîne en montagne. La montagne, la vraie montagne commence demain. Alors, écoute,
et ça, Vingegaard est un grimpeur exceptionnel.
Oui, exactement. Alors, et Vingegaard, maintenant, le bat sur le contre-la-montre, excepté cette année. Cette année, c'est là qu'il est allé chercher des minutes, Pogačar. Fait que, tu sais, il y a plein de subtilités, il y a plein de stratégies. Puis là, les gens me parlent.
Fascinant.
Hey! Pogačar, lundi, il a perdu le maillot jaune. Il n'a pas perdu le maillot jaune. Il ne le voulait plus. Ben, je vous explique, ils sont seulement 7 cyclistes sur 8. Tu dois récupérer. Fait que Pogačar s'est dit, moi, le maillot jaune, je vais le laisser à Ben Healy. Il n'est pas un prétendant au maillot jaune. Je vais sauver les 2 heures de protocole, les conférences de presse, les entrevues journalistes, le podium, les photos, pour m'en aller à l'hôtel pour récupérer. Il ne voulait plus le maillot jaune. Il va le vouloir quand ça va compter.
Ouais, et ça, écoute, c'est fascinant de voir ça, cette lutte entre les deux. J'ai hâte de voir jusqu'à la fin. Ça termine dimanche prochain. Le suivant. Puis ça va être une lutte de tous les instants.
Ouais, puis.
Tadej Pogačar, tu l'as dit, c'est une belle personnalité pour le cycliste. Puis de l'autre bord, tu sais, Jonas Vingegaard, je sais pas si c'était de même, toi, mais. Tu sais, on a la même marque de vélo. T'as dit, ce serait le fun que Jonas, que Vingegaard.
C'est deux gars que tu peux ne pas faire autrement qu'avoir de l'affection pour. Tu comprends? C'est pas souvent en vélo, là, t'as des gars qui ont des sales caractères. Puis tu as lu Foglia assez longtemps pour savoir qu'il les nommait les têtes à claque. Lui, il aimait pas les sprinters. Les gars là, qui arrivaient là, avec 1 km ou 800 mètres à faire, puis qui, là, tu sais, les grosses cuisses. Ceci étant dit, ces deux gars-là, ce sont deux gars qui ont beaucoup de classe Et puis, voilà. Donc, c'est tout un Tour de France. Et là, ça commence vraiment demain.
Alors, on parlait de nostalgie tantôt, là, mais Ali, je sais pas si tu as connu cette époque-là, mais Pierre Foglia, qui écrivait un article par jour et qui suivait le Tour de France assidûment, c'était magique.
Ouais.
Je sais pas s'il y a un recueil.
Oui,
oui, je l'ai lu d'ailleurs. Ben, ça, ben, il y a une genre de biographie.
Oui, mais c'est pas de tout, parce qu'il a toujours refusé.
Ouais.
Foglia a toujours refusé qu'on fasse un bouquin, qu'on fasse un recueil de toutes ses chroniques. Mais il y a des gens, dont Pierre Hamel, je pense,
ouais,
qui ont pris quelques chroniques, qu'ils ont mis dans un bouquin, quelques chroniques sur le vélo. Mais il n'y a personne.
Hey,
cette œuvre-là.
C'est super intéressant.
Cette œuvre-là, si on répertoriait toutes les chroniques de Foglia, il y en a que tu ne peux plus publier maintenant.
Ouais,
probablement.
Il n'y avait,
avait pas la langue de sa poche.
Non, mais sur le Tour de France.
Sur les Jeux olympiques.
Moi, c'est,
sur le basket. Sa passion,
moi,
c'est le basket.
Je lis beaucoup sur le sport.
Ouais.
Et à chaque fois, chaque été, le Tour, je m'efforçais. Ben, m'efforçais, c'est pas une tâche, là, mais je veux dire, je lisais ça. C'était un rendez-vous. Chaque jour, on pouvait le suivre. C'était dans le temps, c'était diffusé à Canal Évasion mm-hmm. également. Maintenant, c'est sur Flow Bikes, d'écran français d'ailleurs.
Oui.
Malheureusement, mon ami Audrey Lemieux ne l'analyse pas cette année. Elle est excellente.
Tu sais qu'on m'a demandé d'être l'analyste.
C'est vrai?
Oui.
Pourquoi t'as refusé ça? arrête de niaiser.
Non, j'ai pas la compétence pour être analyste. Je suis un passionné de vélo. Tino Rossi me l'a demandé. Chic type que je salue, mais je n'ai pas cette compétence-là. En fait, il me l'a pas demandé. Il dit, serais-tu intéressé? Je pourrais-tu suggérer ton nom? Audrey, reviens pas. Et j'ai dit, écoute, c'est vraiment, mais je n'ai pas la compétence. Hey! Je connais le vélo, je connais bien le vélo, j'en fais beaucoup, mais de là à être analyste pendant 21 étapes sur 23 jours du Tour de France,
ça
serait prétentieux de ma part.
Et puis t'es pas en onde pendant...
Pendant
une demi-heure.
Non, c'est 5h30, là, ça prend du contenu. Là. Oublie ça, là. Tu sais, je veux dire, comme mon père disait, chacun son métier, les vaches sont bien gardées.
Tu voulais parler de baseball suite au...
5 minutes pour s'être battu! Ça, c'était incroyable quand j'ai lu ça. C'est une joke qui faisait une farce.
Pete Alonso.
Ouais, qui a frappé un circuit hier, match des étoiles.
Mais c'est Kyle Schwarber de Mayfellies qui a gagné le joueur le plus utile.
Casquette, toi, hein?
C'est, là, tu veux nous parler du vrai record des coups de circuit parce qu'on a fait un hommage à Hank Aaron.
L'avez-vous vu l'hommage hier sur le terrain? C'était fabuleux là, ce qu'ils ont réussi à faire avec la nouvelle
technologie. Mais tous les joueurs avaient le numéro de Hank Aaron, c'est ça?
Le numéro de Hank Aaron, c'est 44. C'est qu'ils ont fait un hommage sur le terrain avec le fameux match où il a frappé son 715e circuit à Atlanta.
Ah, parce que c'était le 15 juillet. Voilà.
Et ils ont fait un hommage, sa femme était là, et c'était de toute beauté. Puis, tu sais, la réflexion, c'est... Bon, il s'est rendu, je pense, à 755. Il a battu le Babe, qui avait 714 circuits.
Ouais.
Puis, est-ce qu'il est vraiment le détenteur ou c'est Barry Bonds? On connaît l'histoire de Barry Bonds. T'as connu, Olivier, même
ben
si
oui.
T'es plus jeune. Et moi, je vais te donner mon avis là-dessus. Je suis contre le dopage. Mais à ce moment-là, c'était pas illégal.
C'est ça.
C'était immoral, mais c'était pas illégal.
Hey, toute cette
course, et ils faisaient tous, essentiellement.
Plusieurs, oui. Hey.
Et levez la main, là. Non, mais encore une fois, je vais appeler à le peuple,
l'armée.
Textez-nous, levez la main si vous leviez le matin, ouvrir la TV, Sport 30, puis tu regardais qui avait claqué des circuits la veille entre Barry Bonds, Mark McGwire, Sammy Sosa pour suivre cette course au circuit-là. C'était... exceptionnel.
Ça a ramené le baseball.
C'est la dernière grande période du baseball.
Ça a été une déception incroyable quand on a su qu'ils étaient tous dopés. Là.
Ouais.
Ça, c'est plate.
Ouais.
Mais ils l'étaient tous. Puis les règles sont arrivées par la suite.
Oui, c'est que, tu sais, puis on pourrait en débattre longtemps.
La messagerie est pleine. Tout le monde faisait ça. Là. À l'époque,
rappelez-vous, le lockout, les expos qui auraient peut-être gagné la Série mondiale et l'histoire du baseball à Montréal aurait changé. Et en passant, les Rays sont vendus ou sont à vendre.
1.7.
Si on avait accepté la garde partagée, tabarnak. On aurait peut-être une chance d'avoir les expos, mais non, au Québec, il faut
pas. Et on a rénové le stade, hein, Eric. On rénove le stade, là.
Junior Caminero, là.
Oui.
Serais-tu le fun, ça, qu'un chandail des expos sur le dos? Il joue pour les Rays, lui, là.
Je rêve, puis je comprends très bien les gens qui étaient contre le projet. Puis bon, le baseball majeur nous a donné une jambette, puis M. Bronfman s'est retiré.
Mais moi, je vais toujours dire la même chose. Je veux dire, oui, Barry Bonds est coupable d'avoir fait ce qu'il a fait.
C'était immoral, mais pas illégal.
Mais ça change rien sur le timing
ouais.
des yeux avec les mains de juger ça. Et tu sais, Éric Gagné, il dit dans son livre, là, brillamment écrit par Martin Leclerc, tu lances des... Je lançais de toutes mes forces des balles rapides. Il a même pas bronché, il l'a frappé en flèche l'autre bord de la clôture. C'était un frappeur exceptionnel, Barry Bonds.
Ouais, c'était déjà un joueur... Tu sais, c'est comme Roger Clemens qui était déjà un lanceur exceptionnel, qui avait un petit peu ralenti. Fait que moi, je pense qu'on va pas lui enlever son record, parce que... Mais je le laisserai rentrer au Temple de la Renommée quand même.
Ah, ça...
Mais tu sais, je comprends les gens qui seraient contre, mais je reviens à ça, là. C'était pas illégal. Il y avait rien dans les règles du baseball majeur qui disait que tu pouvais pas te doper, tu pouvais pas gager. Tu peux toujours pas gager. Oui, tu peux gager, mais tu peux pas gager de la même façon que tu pouvais gager dans le temps. Tu peux pas gager, tu peux gager maintenant sur d'autres sports. Fait que c'est... Mais c'était un bel hommage, puis ils ont montré une petite vidéo sur le diffuseur que je regardais hier sur les joueurs qui ont joué leur dernier match au match des Étoiles, puis tous faisaient le même geste, ils levaient leur casquette.
Ouais.
Y a-t-il un plus beau geste dans le sport professionnel que le joueur de balle qui revient à l'enclos et qui lève sa casquette?
Le seul qui serait comparable, je dirais, c'est peut-être le joueur de hockey qui lève son bâton.
Non, c'est le joueur de hockey qui sert la main à son adversaire après une finale.
Ouais.
Parce que lever la casquette, c'est banal, mais c'est tellement un beau geste.
C'est un geste symbolique. De politesse.
C'est un geste là qui a été établi il y a très longtemps.
Ouais.
Puis c'est un geste qui dit tout. Merci. C'est dit tout. L'athlète qui dit merci aux partisans. Et moi, je pense que l'autre geste qui est vraiment extraordinaire dans le monde du sport, c'est cette poignée de main entre deux équipes de hockey après une série.
Oui. Absolument.
Ça, c'est-tu noble? Y a-tu quelque chose de plus noble que ça?
Tu parles de la casquette, puis ça me ramène toujours. Ça doit faire 12 fois que j'en parle. Hey, si vous tombez en vacances puis vous voulez lire un livre, là, lisez la biographie de Mariano Rivera.
Mm.
Et le moment au Yankee Stadium, que c'est son dernier match, puis justement, il lève sa casquette. Ouais. À la foule qui est... Le Yankee Stadium est sold out.
Ouais.
Les gens, ça crie comme ça, pas de bon sens. Et ça avait été Derek Jeter et le lanceur qui avait été le chercher.
C'était
Andy Pettitte.
Andy Pettitte.
Andy Pettitte qui avait été le chercher sur le terrain. Puis il avait dit, les gars, je veux rien savoir de ça. Ouais. Faites rien. Je sais que c'est mon dernier match, mais faites rien. Puis comme de fait, quand il les a vus sortir, il les a regardés avec un sourire en me disant, mais... Tabarnouche, vous autres. Ils sont arrivés. Andy Pettitte appelle l'autre lanceur. Ouais. Vient-t'en. Puis Mariano Rivera serre la main, les salue, fait un petit hug à Derek Jeter. Puis il reste là. Puis tu vois juste les épaules sauter. Ouais. Il a fondu en larmes. Ouais. Puis après, il a levé sa casquette à la foule.
La casquette.
Vous devez absolument lire cette biographie-là. C'est exceptionnel. Hey, on va aller parler de hockey. On aime ça appeler les joueurs d'âge junior des générationnels. Des exceptionnels. Moi, des générationnels, j'en ai vu deux dans la même génération. Après ça, McDavid est arrivé. Puis là, ça fait 3 en 6 ans que je vois passer. Connor Bedard, Macklin Celebrini, et là, c'est Gavin McKenna. Puis après ça, ça va être Landon Dupont. Mais c'était Cale Makar. Il y en a des générationnels de ce temps-ci. Là. C'est assez populaire.
Ouais.
Toi, tu trouves qu'il y a un piège de recevoir autant d'éloges à un jeune âge? Et le nouveau coach de Gavin McKenna, il en a donné des pas pires éloges comparatifs présentement.
Il a fait un éloge en disant que sa créativité était peut-être égale à celle de Wayne Gretzky. C'est tout un éloge, là. Puis pour les plus jeunes, Wayne Gretzky, quand il est arrivé dans le National, il arrivait premièrement de la MH. Puis tout le monde disait, il n'y a pas de lancer, il n'y a pas de patin, il n'est pas gros, mais il était créatif et il était bon, il était super, il avait une vision, il était incroyable, là, on le sait.
Il avait des yeux tout le tour de la tête.
Ouais, c'est ça. Et là, de le comparer à Gretzky, c'est un bel hommage. Je le comprends qu'il est excité, M. Galarski. Il a connu Gretzky parce qu'il a joué dans la filiale des Oilers pendant ces années-là. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. C'est un gars qui connaît le hockey, clairement. C'est un gars qui a un beau leadership parce que McKenna a choisi d'aller à Penn State à cause de lui en partie et aussi à cause du chèque, sûrement. Et ça, c'est légitime. Mais là, c'est mettre beaucoup de pression à un kid, je trouve. Puis le piège, parce qu'il va être payé, c'est là de se mettre de la pression pour les attendre. Tu sais, on en a parlé cet hiver. Arch Manning, à Texas, il est low-key. Il est en dessous du radar. Il essaye le plus possible d'être en dessous du radar.
Et il vient de la meilleure famille possible pour être dans ce genre de situation-là. Tu sais, toute sa famille, ils ont fait de l'argent, ils sont connus.
Ouais.
T'es un kid de 17-18 ans qui débarque à l'université, tu te fais donner un chèque de 700 000 dans le cas de Gavin McKenna, mais il y en a d'autres au football, au basket, c'est des millions de dollars. Pas tout le monde est capable de gérer ça.
Ouais, fait que McKenna, puis coach Gadowski a dit, on jouera pas avec sa façon de jouer, là. On va le laisser être créatif, puis on commencera pas à lui demander. Tu sais, Tortorella serait arrivé puis aurait dit, tu joues comme ça, tu joues comme ça, ouais. Tu joues comme ci, tu joues comme tu le demandes. Fait que c'est mettre beaucoup pour un gars qui a pas encore... c'est son année de repêchage, là. On va attendre de voir comment ça va se passer à Penn State. Il est prévu d'être repêché premier. Probablement que ça va être ça. Parce qu'il a la réputation. Mais rappelez-vous, il y a quelques années...
Probablement, c'est quoi? 97-3, mettons?
Mais il y a un... Il y a un défenseur canadien qui est excellent aussi.
On sait pas comment ça va se passer. Shane Wright, 2-3 ans avant son année de repêchage. C'était un exceptionnel. Shane Wright, pas l'année de son repêchage, 2-3 ans avant, c'était un exceptionnel.
Ouais. Okay? Ouais, mais ça fait longtemps qu'on parle de... Tu sais, les jeunes comme ça, que ça fait longtemps qu'on parle... Comme Connor Bedard. Puis même
Shane Wright, on parlait de lui à 14-15 ans.
Mais pas autant que Connor Bedard.
Oui. J'étais dans... Hey, je le voyais dans les tournois, là. Ouais. J'allais avec mes gars, là. Je le voyais dans les tournois. Tout le monde parlait de Shane Wright. C'était un homme parmi les enfants. Mais je t'ai dit... Pas l'année de son repêchage. Là, on a commencé à d'autres...
Pandémie et tout ça.
Ouais, bon. Mais puis je souhaite à McKenna d'être aussi bon qu'on le dit. Mais le piège, c'est naturellement comment ça va se passer à Penn State. Bon, ça s'est bien passé avec Medicine Hat. C'est un gars, clairement, qui est capable d'être loin de la maison. Alors... Je veux dire, mais je comprends pas pourquoi on a besoin de tout de suite le comparer à la merveille. Tu comprends?
Incroyable. Ben, t'sais, comparé à Gretzky.
Il a parlé de sa créativité.
C'est parce que le coach, c'est aussi sa job. Lui, il a recruté McKenna. Il a probablement fait énormément de promesses, premièrement, d'un point de vue monétaire. Deuxièmement, d'un point de vue hockey. On va te donner ta liberté si ça. Lui, si McKenna, ça marche, Penn State ont énormément d'argent. Chaque McKenna qui arrive à chaque année, il va le vouloir. Donc, ça fait peut-être aussi partie de sa stratégie. Il faut qu'il soit capable de vendre sa salade, de mettre en valeur, de hyper ses gars pour être capable d'en recruter d'autres au fil du temps.
Oui, mais... il y en a plusieurs qui parlent de James Higgins, mais il n'y avait pas de consensus.
Non, Higgins n'était pas.
Ben, on parlait beaucoup de lui. Je pense que c'est le nom qui ressortait le plus, 12 mois avant le repêchage.
Mais c'était pas un exceptionnel.
Ben c'est ça. C'était pas. On se dit, c'est Gavin McKenna l'année prochaine. On parlait déjà de McKenna.
Dans le cas de McKenna, contrairement à quand tu vas jouer dans la Ligue junior maritime du Québec, t'es repêché, tu y vas. Ouais. Tu peux pas choisir. Là, lui a choisi son programme. Donc, il est allé au plus offrant. Donc, il y a de la pression qui vient avec ça, tu comprends? Alors, puis moi, j'ai pas de doute que ce gars-là va être très, très, très bon. Maintenant, de dire qu'il y a la créativité de Gretzky, tu sais, tout le monde me parle des mains de Demidov en fin de semaine. Tout le monde me parle des mains de Demidov.
Ouais.
Tu comprends? Ça prend plus que des mains. Et moi, j'ai aucun doute que Demidov va être extraordinaire et va être très bon. Mais je veux dire, tu sais, on voit ce qui... Tu sais, un match de hockey, ça dépend avec qui tu joues, dans quelle équipe tu joues, c'est quoi le système de jeu,
ton
coach.
Mais tu sais, Demidov a joué dans le KHL quand même, puis on l'a vu performer là, tu sais.
Oui.
Quand tu vois des jeunes qui, tu sais, Connor Bedard, on se dit... C'est le prochain Connor McDavid. Puis là, il arrive la première année. Il a joué 68 matchs, il a fait 61 points.
C'est correct.
Tu sais, puis là, hey, wow. Il y en a qui ont dit ça. C'est pas moi, là. Mettez-moi pas des paroles dans la bouche. Hey, c'était un boss, ce Connor Bedard. Ça n'a pas d'allure.
Mais on a tendance à mettre.
Attends une minute, là. Regarde l'équipe dans laquelle il joue. Puis des fois, ça veut pas dire que tu arrives dans la ligue, tu performes tout de suite. Il y en a que ça arrive. Lane Hudson, par exemple, personne s'en attendait. C'est mis à performer tout de suite. Ça a fonctionné. Mais ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant, tu sais.
On a tendance à mettre des attentes tellement élevées pour les jeunes. Regarde au basket, combien de futurs LeBron James est-ce qu'on a eu? Anthony Davis, Ben Simmons, tous ces gars-là, c'était...
Anthony Edwards, c'est le prochain Michael Jordan.
C'est tout prochain.
Arrête là, avec le prochain Michael Jordan. Tu comprends?
Ben, même LeBron, quand il est arrivé dans la ligue, le repêchage, là, on se posait la question à ce moment-là. C'est-tu LeBron ou c'est Carmelo Anthony?
Ouais, mais là,
c'est lequel des deux qui va sortir?
Ils sont pas trompés, puis LeBron a répondu aux attentes. Là.
Absolument.
LeBron a répondu aux
attentes.
Mais
Carmelo Anthony a quand même eu toute une carrière aussi.
Mais
là.
Rien qui est comparatif à LeBron.
Non, de son, absolument
de
pas. Son,
de ses 20 années là, qu'il a joué, il n'y a rien qui est pas... Tu sais, je te dirais que Kobe, parce que Kobe aussi est arrivé de secondaire, il n'a pas joué universitaire. T'sais.
En fait, LeBron, c'est un des rares exceptionnels qui, malgré que les attentes étaient tellement, tellement élevées, il a réussi à ne pas les décevoir.
À la limite, les gars, McKenna, il y a 17 ans. Joe Villano, là, Il avait 15 ans quand on l'a surclassé pour venir jouer
Junior
majeur.
C'était pas un vrai exceptionnel.
Puis à l'interne, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient c'est pas le bon candidat pour faire ça. Mais il l'a eu. Il a obtenu ce statut-là. Mais à l'interne, même avec les Lions du Lac-Saint-Louis, il y avait beaucoup de gars qui disaient, tu sais, des intervenants qui disaient, il est pas prêt.
Je te donne des statistiques, puis tu me dis de quel joueur que je parle. Je dis-tu, c'est vous. Alors, je m'adresse à l'armée, à Eric, puis à Pimento aussi. 63 points en 82 matchs. 38 points en 64 matchs.
Ah, je sais c'est qui.
52 points en 72 matchs. Attends, 53 points en 82 matchs. Et à sa saison suivante, 97 en 74, 99, 93.
Il y a une Coupe Stanley.
Ouais, Nathan McKinnon.
Il y a une coupe Stanley. Ben oui, exactement. Et on a même dit qu'il était peut-être le meilleur joueur de la Ligue à un certain moment.
Ouais.
Tu comprends?
Là encore, là, 111, 140, oui. 116, ça oui. C'est ses trois dernières saisons.
Mais McKinnon, même à son année de repêchage, il y a des gens qui se disaient je pense que Seth Jones devrait être pris devant lui. Il y avait des gens qui pensaient même que Jonathan Drouin...
Que même Jonathan partirait avant lui.
C'est vrai.
C'est Patrick qui a insisté. Patrick a dit non, on prend lui.
Un autre exemple, c'est vrai, t'as tout à fait raison là-dessus, Eric. Un Eric sur la messagerie texte d'ailleurs, Jack Hughes. Combien de fois on a dit que c'était un bust, puis à un moment donné... Après quoi, 3 ans, ouais. On a découvert son talent, puis il était exactement ça.
On affirme trop vite d'un côté comme de l'autre, mais ceci dit, ça va dépendre avec qui, quelle équipe il va se retrouver. Puis je te le dis, s'il est aussi bon que coach Kalowski dit, les équipes vont vouloir perdre pour aller chercher le premier joueur pêchage.
Oui, c'est sûr.
Parce que, puis tu sais, alors, ça augure bien pour le jeune. Il va être bien entouré, il va vivre du...
Puis il y a plein d'exemples. Tage Thompson, à quel âge il a éclos?
Ouais, mais il n'est pas dans ce niveau-là. T'sais, pour moi, Tage Thompson, c'est pas le
non,
niveau.
Non, mais c'est quand même un très bon joueur de hockey. Puis je veux dire, ça ne performait pas à son arrivée dans la ligue.
Parle-moi de gars comme Lane Hutson, que tout le monde doutait, puis qui arrive, puis qui fait tant les dénigreurs.
Absolument.
Lane Hutson, tu comprends? Il arrive dans l'arrière, là, lui, là. Tu comprends? Puis là, il dépasse tout le monde. On va voir ce que ça va donner cette année. Fait que, tu sais, Demidov, cinquième. Peut-être qu'on va se dire, hey, quel vol cinquième, là, Demidov, là.
Quoi déjà le nom du gars qui avait dit niveau de compétition moyen au Lane Hutson?
Pas fort, ça.
Ouais. Son engagement est incroyable. c'est incroyable.
Niveau de compétition moyen.
Ouais.
Ah, si tu veux te douter d'autre chose de Lane Hutson, c'est correct, là. T'as le droit. Niveau de compétition moyen. Je me rappelle plus du nom du gars. J'aimerais ça le retrouver. Lui qui l'avait classé 39e.
Je pense que c'était Scott Wheeler.
Non, c'est Corey Pronman.
Corey Pronman.
Merci,
The
Julien.
Athletic, ouais.
Non, parce que Scott Wheeler...
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Puis Pronman, je pense que même pendant l'année, il était pas chaud à Hutson.
C'était à la mi-saison quasiment qu'il avait dit ça, il me semble.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je veux dire, non, écoute, Lane Hutson, on l'a vu jouer, nous autres, là. Puis on l'échange pas, il bouge pas.
Non, c'est ça.
Toujours pas signé le contrat, lui, hein.
Est-ce que c'est le prochain dossier pour Kent Hughes?
Je passais devant le centre d'entraînement Bell. Il doit être là, l'organisation, je sais pas.
C'est une excellente bonne question à laquelle nous n'avons pas de réponse
aujourd'hui. Exactement.
La bonne nouvelle, c'est qu'il nous en reste encore plusieurs belles chroniques ensemble d'ici la fin de l'été. Éric Audial, merci.
Merci Greg, merci Olivier.
J'ai frappé beaucoup trop fort sur la table parce que j'étais beaucoup trop heureux, mais merci mon chum.
Ben, ça fait plaisir.